Donc, on va accueillir maintenant, et je suis très heureuse qu'il ait accepté cette invitation, puisque nous nous sommes rencontrés pour la première fois la semaine dernière à Bordeaux lors d'un colloque. Et donc, Nicolas, malheureusement, on n'a pas pu refaire nos documents de diffusion. On a pu mettre des informations dernière minute. Donc, Nicolas Localzo est photographe. Donc, je vais reprendre quelques informations que j'ai trouvées sur ton site. Donc, tu es né à Turin. Tu partages ta vie et t'accomplis ton travail entre Paris, j'ai compris, l'Afrique et puis l'Afrique de l'Ouest et la Caraïbe. Tu as nourri ton expérience auprès du mouvement LGBTI et tu as été du coup sensible, très sensible aux problématiques des groupes minoritaires. C'est à l'intersectionnalité, à la colonialité, c'est, j'ai compris, ce qui t'a amené en fait à travailler sur cette histoire et cette mémoire de la traite et de l'esclavage. Et tu t'es, ce que j'ai entendu au colloque de Bordeaux, donc Nicolas s'est beaucoup interrogé sur, de manière, avec son extériorité et cette découverte du peu de choses que l'on connaissait à propos du monde transatlantique et du drame de la traite transatlantique. Donc, tu as conduit un travail sur les mémoires de l'esclavage au sein, enfin, tu le conduis, hein, il est actuel, le projet CHAM. Le projet CHAM. Tes photographies ont été exposées dans de nombreux lieux, dans des capitales africaines, en Haïti. Alors, je ne sais pas quelle capitale africaine, j'ai pensé à la
Cotonou, Lagos, non, Cotonou, Lagos.
Ouais. D'accord. Tu as aussi exposé à Paris, Amsterdam, Florence, etc. Et tu as donc coordonné le projet dont tu vas nous parler, CASAL. Réunissant les photographes haïtiens du collectif de
K2D.
Voilà, et qui a été produit par la Fondation culturelle Focal qui est à Port-au-Prince.
Oui.
Voilà. Donc, je te laisse la parole.
Oui, bonjour à tous. Merci, Christine, de m'avoir invité pour cette présentation que je vais aussi faire au nom des photographes du collectif 2D qui ne sont pas présents, ils sont en Haïti à Port-au-Prince. Et je vais vous présenter donc le livre que d'ailleurs j'aimerais bien faire tourner entre temps, si c'est possible, comme ça vous allez aussi le toucher avec vos mains, qui était réalisé dans le cadre d'un projet mené par la Fondation Focal sous ma direction artistique entre 2015 et 2019. Le livre vient d'être achevé et imprimé il y a un mois. Et le projet CASAL, ce n'est pas seulement un livre, c'est aussi une exposition internationale et un long format web. Donc l'idée, c'était d'aborder les questions mémorielles liées à CASAL et de manière indirecte aussi à la mémoire de la dictature sous Duvalier à travers une approche photographique. Je vais juste ouvrir le PDF du livre qu'on va regarder ensemble. L'éclairage est éteint. Voilà, c'est un projet donc qui s'est construit sous le temps. Un projet qui a aussi bénéficié avant tout du soutien de la population des CASAL et puis ensuite aussi de certains militants locaux comme par exemple Daniel Magloire qui nous a aussi accompagnés dans le développement de cette recherche. C'était aussi un peu expérimental, c'est-à-dire que comme mode, elle a bien dit tout à l'heure, au niveau de bibliographie sous CASAL et aussi des travaux photographiques, il y a eu des vidéos, des documentaires qui ont été faits, mais il n'y avait pas vraiment un travail photographique qui était fait sous CASAL, sous la population, sous les habitants qui essayaient de retranscrire cette mémoire. Ce qui était important pour nous, c'était déjà qu'il soit un travail mené par des photographes haïtiens. On voulait vraiment, et c'était ça en fait, la base et le sens de ce projet, c'était de pouvoir donner à des photographes haïtiens les moyens de travailler sur un territoire qui est comme celui des Casals, et investir donc ce territoire, essayer aussi de se confronter avec des mémoires locales. Et ce qui en résulte, c'est une double perspective, ce qui fait aussi, je pense, la richesse de ce travail, c'est-à-dire c'est à la fois les mémoires des personnes qui ont été interviewées et photographiées, et aussi le point de vue de ces photographes haïtiens, qui donc ils portent un regard sur cette mémoire et ils rentrent aussi en dialectique avec cette mémoire. Donc c'était le travail, il est organisé, ça c'est les auteurs, donc Edwin Célestin, Fabien Douste, Réginald Louis-Saint Junior, Moïse Pierre, Georges Henri Rousier, Mackinson Saint-Félix, tous les six du collectif 2D. C'est des photographes qui sont installés en Haïti, qui sont issus du photojournalisme, donc c'était aussi un challenge de se confronter pour la première fois avec un travail documentaire. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas un travail photojournalistique, c'est vraiment un approche documentaire, c'est-à-dire la partie subjective du photographe, le regard du photographe est assumé et revendiqué, et c'est ça qui donne aussi sens à tout le travail, qui est un travail collectif. Donc l'organisation du récit que nous avons, que vous allez voir tout à l'heure, c'est un travail collectif à travers des regards individuels qui sont ceux propres à chacun photographe. Le premier test, c'est un test d'introduction d'Edwin Célestin. Je reviens dessus, là, vous n'allez pas le lire, si vous voulez, après je pourrais vous l'envoyer. Donc c'est Edwin Célestin, photographe, journaliste qui a participé à ce projet et qui a aussi vécu de manière indirecte le drame de la dictature sous Duvalier. Donc c'est intéressant de voir comme ces photographes haïtiens, tous issus de la première génération post-Duvalier, comment se rapproprier eux-mêmes de ce passé qui leur était complètement inconnu. Parce qu'en fait, avant de commencer à travailler sur le Casal, ils n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé à Casal, ni du massacre, etc. Donc c'était pour eux aussi une découverte d'une histoire qui leur était plus ou moins cachée par les familles, parce que aussi la mémoire de la dictature s'est libéré avec l'OTAN. Et du moment où il n'y a jamais vraiment eu des procès, il n'y a jamais eu un travail de mémoire collective en Haïti sous la mémoire de la dictature, Casal, elle était restée un petit peu dans un tiroir, la mémoire de ce village. Le projet s'est construit justement à partir des rencontres que nous avons fait à Casal. Donc l'idée, c'était de partir de manière récurrente à Casal, d'essayer de créer des liens avec la population, d'échanger avec la population. Donc avant d'arriver à la prise de vue, ça a pris beaucoup de temps. Ça crée aussi parfois des complications de la rencontre, aussi de réticences. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'au fur et à mesure des rencontres, il y a des vrais liens qui se sont établis avec certaines familles locales, celles notamment qui avaient été impliquées directement dans le massacre, en tant que victime, aussi en tant que bourreau, si on veut créer cette généralisation. Mais comme Maud disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, les interviews qu'on a pu prendre relèvent justement cette complexité de la mémoire qu'on ne peut pas réduire tout simplement à une... Sans lever, évidemment, les responsabilités, mais on ne peut pas réduire à bourreau d'un côté et victime de l'autre. Et donc, à partir de ces interviews, de ces rencontres, il y a des mots-clés qui ont émergé et qui ont organisé tout le récit photographique. Donc les mots-clés sont de l'eau, la question de l'eau, et c'est avec ça qu'on a voulu commencer le livre et le travail photographique. Donc la question de l'eau qui est notamment mentionnée par les familles et par les personnes que nous avons rencontrées et photographiées, le rapport avec Cabaret. Et d'ailleurs, c'est la rivière Bretel, qui c'est la rivière qui c'est un peu une des causes de ce massacre, c'est celle qui démarre aussi le projet photographique. Et c'est aussi cette idée de l'espace, de la spatialité des Casals qui pour les Casalais dépasse justement les frontières de la petite ville de Casale qui arrive jusqu'à Cabaret. Donc ça, c'est des photos que nous avons faites justement à l'embouchure de la rivière Bretelle. On a aussi intégré des archives. Alors, les photographes, ils ont travaillé de manière collective aussi individuelle, c'est-à-dire que chacun d'eux, il a décidé d'explorer un aspect différent de cette mémoire par la photographie. Donc, il y a Moïse Pierre qui a travaillé sur le rapport entre Cabaret et Casale. Donc, c'est lui qui a réalisé les photographies de la rivière Bretelle jusqu'à l'embouchure et jusqu'à Cabaret. Après, il y a ceux qui ont travaillé sur la mémoire des victimes et aussi des miliciens. Ça, c'est Fabienne Douce. Il y a ceux qui se sont investis plutôt sur le rapport entre l'État et la mémoire, surtout sur l'absence de l'État, présence, absence de l'État à l'intérieur de cette histoire de Casale. Et puis, il y a aussi la question de la terre, qui est aussi un élément fondateur de tout, tout le projet, parce que le rapport à la terre, c'est révélateur aussi des enjeux qui sont derrière le massacre. Et d'ailleurs, le projet sous Casale, c'est un projet, pour moi, qui est en quelque sorte un portrait aussi de cette paysannerie haïtienne qui n'est pas très connue. Et c'est aussi, ça peut être aussi quelque part un hommage à cette paysannerie qui habite les Mornes et qui est autour des Casales, qui habite à Casale et qui a été un peu oubliée de la mémoire collective du pays. Donc on a aussi essayé de croiser toutes les questions liées à la racialité, par exemple, qui ont été très importantes dans le récit du massacre. Ce qui nous avait frappé, mais Maud l'avait déjà très bien dit tout à l'heure, c'était aussi cette espèce de des vides entre ces deux éléments fondateurs qui sont d'un côté l'histoire des Polonais et de l'autre la mémoire du massacre. Et donc on dirait qu'entre ces deux moments historiques, il n'y a pas vraiment de mémoire. Donc c'était ça qui nous avait aussi frappé. Donc après, on a rencontré des témoins, donc là vous allez les voir, on a fait le choix de donner la parole à tout le monde, c'est-à-dire c'était vraiment important de pouvoir recueillir ces informations, surtout que la plupart de ces personnes, ils sont très âgés, et d'ailleurs, les derniers deux ans, il y en a pas mal qui ont décédé, donc c'était vraiment important de recueillir leurs paroles, aussi de les photographier, pour raconter la complexité de ces événements. Donc on a interviewé à la fois des victimes ou celles qui en tout cas qui se revendiquent en tant que telles, et puis on a aussi rencontré les miliciens, ceux qui ont participé de manière directe ou indirecte au massacre. On a photographié aussi les lieux de mémoire, ça c'est l'arbre, le fameux arbre sur lequel, selon les différents récits, a eu lieu le massacre. On a essayé de faire un travail sur l'iconographie, sur le peu d'iconographie disponible et aussi sur les archives. On a essayé d'aller aux archives nationales en Haïti, mais c'était une catastrophe, on n'a pas pu avoir accès vraiment à des données. Mais donc on a quand même, à travers aussi Daniel Maguire, on a récupéré quelques documents, quelques photographies. Ça, c'est des photographies, par exemple, qui ont été faites. C'est les seules photographies que nous avons de la première commémoration faite en hommage aux victimes du massacre. Donc c'était aussi bien d'intégrer cette iconographie historique à l'intérieur du récit, avec aussi l'ambition de contribuer d'une manière ou d'une autre à un travail de mémoire. Et c'est aussi ça la question que nous avons posée, c'est est-ce qu'un travail photographique peut contribuer à un travail de mémoire? Est-ce que ce travail de mémoire peut être porteur de sens et peut aussi dépasser l'ambition artistique des photographes, de chaque photographe? C'est ça vraiment la question que nous avons posée au début de ce projet. Toute la narration est aussi rythmée par des extraits du livre du gouverneur de la Rosée, qui était un roman assez important qui questionne justement le rapport à la terre, à la paysannerie, etc. Donc c'est vraiment c'est les extraits que vous voyez ici. Pardon. Après, on a aussi questionné la question de la couleur qui revient souvent dans les récits du massacre et qui se mêle parfois au récit des Polonais. Donc parfois, il y avait une sorte de... pas de confusion, mais c'est justement une mémoire ostrate qui justement était là, était omniprésente. Après, on a dépassé cette géographie de Casal et on a essayé de travailler de les morts, sous les mornes, notamment à Tissot, de la région de Tissot, où, selon les récits, il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées et aussi plusieurs personnes qui ont échappé au massacre. Donc, on a essayé de retracer à travers les récits des familles les pistes qui ont été utilisées par les différents fugitifs, et on a essayé justement de les restituer à travers la photographie. Alors, ce qui était, qu'il faut dire avant, par rapport à ce travail qui s'appelle Casal, c'est que le travail sur Casal, c'est un travail sur la présence de mémoire, mais aussi sur l'absence de mémoire. C'est-à-dire que finalement, nous nous sommes confrontés à... peu de traces matérielles de ce massacre. La plupart de la mémoire, c'est une mémoire qui est immatérielle, c'est une mémoire qui passe à travers l'oralité, à travers les récits. Donc c'est vraiment peu les documents et les traces matérielles physiques de ce massacre, à part l'arbre. Donc il y a l'arbre, après il y a deux, trois lieux à l'intérieur de la ville, il y a la cloche de l'église qui était, à un moment donné, était façonnée au rapport au massacre, mais il n'y a pas grand-chose physiquement. Donc on a décidé de photographier aussi des objets de la vie quotidienne de ces habitants et de les mettre après en situation et au récit par rapport au reste des photographies. Ça, c'est des photographies qui ont été faites à Tissot. Après, si vous voulez, je peux me soufermer, mais je vais aller très vite parce que le livre est assez long. Donc là, on est de la partie qui est relative à la terre. Là, on est rentré de l'eau mystique. Ça, c'est une des mots-clés que j'avais oublié de vous mentionner tout à l'heure. C'est aussi une composante essentielle de cette mémoire des Casalais, l'eau mystique. Donc l'aspect, notamment la figure d'Eliezer, de Jérémie Eliezer, qui est un personnage historique, mais en même temps, il devient aussi un personnage un peu mythique, qui relève un peu du mythe. Donc il y a une sorte de mythologie autour de Jérémie Eliezer. Notamment le fait qu'à un moment donné, il se transforme en cheval. Il y a, ça, c'est un des listes qui lui est dédié de la ville de Casal. Après, on a récupéré des documents. J'avance vite. Le livre était publié en trois langues, c'est français, créole et anglais. Ça aussi, c'était un choix que nous avons fait. C'était très complexe de gérer cette publication en trois langues, mais c'était fondamental quand même d'avoir aussi le créole. Et d'ailleurs, c'est le titre du livre Casal. C'est, on a décidé d'utiliser le mot créole Casal, K-A-Z-A-L. Et c'était aussi de l'idée de le restituer avant tout à la population locale. Donc, on a vraiment essayé de faire un travail. Évidemment, il y a eu, Model mi disait tout à l'heure qu'il y a eu aussi des retours parfois compliqués. Mais en même temps, on est dû passer par cette confrontation-là avec la population, avec les familles. Donc, on a essayé de les impliquer un peu à tous les niveaux. Toutes les fois qu'il y avait, on faisait un repérage ou un déplacement, on essayait après de restituer le travail fait. D'ailleurs, dès que le livre sera livré en Haïti, ce n'est pas encore le cas, on est en train de se battre avec le dédouanement, parce que c'est très compliqué de transporter des livres, surtout une grande quantité de l'Italie, où était imprimé le livre en Haïti, mais le livre sera restitué justement aux habitants. Et c'était aussi un peu le but de ce travail, c'est vraiment d'impliquer cette population qui au début était aussi un peu de le déni. Et surtout, ce qui était intéressant, c'était qu'il y a une mémoire, cette mémoire collective qui est parfois un peu figée. Il est en dialogue avec une mémoire individuelle, une mémoire particulière, justement, qui retrouve des lieux qui ne sont pas forcément les lieux du récit public, du récit en commun. Et c'était intéressant, justement, d'intégrer toute cette complexité dans ce livre et dans les textes, surtout. Donc ça, c'est, par exemple, c'est le récit de... Peut-être c'est un de vos... Ah, voilà. Ouais. Et donc, c'est votre grand-père. Mon père. Ah, c'est votre père. Ah oui. Oui, oui, mais justement, on est au courant parce qu'Arnold, on était avec lui. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs personnes qui en ont décédé les dernières années. Et donc, lui aussi nous a livré sa parole et aussi le rôle qu'il a joué à l'intérieur de cet événement. Alors, ce qu'il faut dire, c'était que c'était plus compliqué. Pour nous, après je ne sais pas pour le monde, d'avoir la parole de ceux qui ont participé de manière directe ou indirecte au massacre, que non la parole des victimes. Ça a pris plus de temps. Donc, ça, c'est par rapport à l'expérience que nous avons eue de ces informations. Donc, en fait, les miliciens qui habitent toujours aujourd'hui à Casale et qui ont aussi décidé qu'à un moment donné, ça s'est créé pour des questions de survie et aussi pour des questions de répression au début, mais après la dictature, on aurait pu aussi faire un règlement des comptes. En fait, il n'y a jamais eu vraiment de règlement des comptes. Il y a eu une mémoire il y a une sorte de cohabitation qui s'est faite et qui s'est installée entre les personnes avec cette conscience quand même du passé en commun, parfois c'est violent. Ça, c'est un de notre témoin, milicien traditionnel, aussi ancien milicien. J'avance très vite. Après, il y a Anselme Benoît, qui pour nous c'était un des personnages les plus aussi significatifs et emblématiques, surtout que lui à Casale est un peu considéré comme le porteur de cette mémoire. Donc lui, il nous a raconté le rôle qu'il a joué et son expérience à lui. Et c'était une figure un peu emblématique de cette mémoire à Casale. Et puis on a aussi voulu revenir à cette mémoire matérielle qui, pour le coup, il s'inscrit dans le travail de ce Casale et il s'est traduit dans un patrimoine architectural qui est issu du duvalierisme. Donc on a travaillé à Duvalierville, qui aujourd'hui est Cabaret, où il y a eu un plan d'urbanisme, parce que la ville, en fait, elle était complètement, objet d'un plan d'urbanisme très important. Donc aujourd'hui, il y a cette Duvalierville voulue par Duvalier, elle est toujours là, avec ses maisons modernistes. Alors, le livre a été complété. Et je termine par des textes de Claudia Girola, qui a pu aussi travailler sur ces questions de la mémoire à Casale pendant les années de notre masterclass, et puis aussi par un texte de Edwige D'Antica, qui est une écrivaine afro-américaine, haïtienne, qui habite aujourd'hui aux États-Unis, et qui a aussi apporté son écriture et sa plume en tant qu'écrivaine. Donc c'est vraiment... Et puis, il y a aussi un texte à moi qui explique justement le rapport entre la photographie et la mémoire et essaie aussi d'expliquer en quelle mesure la photographie peut contribuer à un travail de mémoire. Je dois conclure ? Oui. Donc, voilà, ça c'est juste pour vous donner un aperçu du livre. Donc c'est un projet sur 4 ans et donc là le livre va être disponible, il est déjà disponible si vous souhaitez l'avoir. Vous pouvez l'avoir en France et aux États-Unis, insomma, le distribuer un peu partout et bientôt, très bientôt j'espère, en Haïti également. Voilà, merci beaucoup.
Merci à toi. Didier, tu peux me rappeler le temps s'il te plaît, là il est... Alors, ce que je vous propose, c'est un peu frustrant, mais il faut bien faire avec le temps. Donc, peut-être te donner la parole, Maud, si tu la souhaites, pour si tu as un commentaire, parce que tu es quand même en dialogue avec Nicolas et que tu connais bien. Après, embrayer sur la discussion, puisque nos discutants sont là. Voilà, et on reviendra peut-être sur... oui, voilà, si tu le souhaites. Hein, voilà, répondre à Nicolas.
Je n'aurai pas le temps.
Bon, ok. D'accord. Merci. Non, c'est intéressant. Alors moi, je découvre en fait le travail. Enfin, je découvre le résultat final. Après, bien sûr, j'étais informée. C'est de très belles photos. Félicitations. Et il y aurait plein de choses à dire. Mais ouais, moi, j'ai suivi votre travail en étant finalement un peu sur place. Et la manière dont ça a permis de nourrir le récit. Et ce récit qui circule. Et aussi certaines tensions que ça a créées dans le village. Et c'est ça qu'il est aussi intéressant d'étudier. Mais je crois que là, oui, on a... Alors, peut-être revenir sur ce que vous disiez, c'est un élément très important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, en Haïti, enfin, ce, depuis quelques temps, on a une remise en cause de la violence qui a constitué cette période de l'histoire récente d'Haïti, en l'occurrence la dictature. Et aussi parce qu'on a toute une frange de la population, on ne va pas s'étendre sur la démographie haïtienne, qui n'a pas connu cette période-là, et où on a une mémoire. Alors, je pense que le mot mémoire, en soi, il est insuffisant pour traduire ce que j'ai en tête, mais tant pis pour moi, mais qui se transmet, mais pas forcément en étant verbalisé, encore une fois. Et donc, c'est important qu'on ait des travaux comme les vôtres. Mais ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est cette question de la commémoration. Et on a quand même des acteurs, et nous aussi, comme disait Madame tout à l'heure, finalement, c'est on fait partie jusqu'à un certain point de ces acteurs qui allons chercher un récit, qui peut-être en attendons quelque chose, et qui co-construisons ce récit. Et c'est difficile de dépasser cela, mais par exemple, pour vous, enfin, je m'exprime très mal, je suis nulle, mais en 2000, Jean-Claude Duvalier, le fils de François Duvalier, Baby Doc, donc, est rentré en Haïti en 2011, tranquillement, j'ai envie de dire, hein, après un exil doré, notamment en France. Et en 2011, on n'a pas commémoré ça parce que les gens avaient peur. Alors, La question de la proximité entre ceux qui ont fait le mal et ceux qui l'ont reçu, elle est extrêmement complexe. Cette frontière entre l'humain, non-humain, comment on réhumanise aussi ceux qui parfois ont été... Vous parlez du mot milicien, c'est réducteur. Enfin, oui, mais on réhumanise ces gens qu'on connaît, qu'on a continuer de fréquenter après les événements, de la même manière que voilà, on a effacé ce qui était semblable au moment des événements, la même thé finalement, mais là on l'a réintroduit cette même thé entre des gens qui pourtant ont fait du mal aux nôtres. Et aussi l'époque de Duvalier, elle est relue, puisque on va jusqu'à dire que c'était pas tant lui-même qui était responsable de ce qui s'est passé que certains de ses miliciens, que oui, parce que ce sont des hommes qu'on a connus, qui étaient proches, qui étaient contraints de faire ce qu'ils ont fait. Donc là, on a effectivement des choses à analyser, et je crois, moi, en fait, ce qu'il faut être faut être prudent, parce qu'elle est, c'est compliqué, la question de la dictature en Haïti, et ça l'est toujours, même 30 ans, enfin, je veux dire, 50 ans après les faits, mais après 30 ans, c'est extrêmement compliqué pour tout le monde. Donc, c'est délicat d'être délicat, j'ai envie de dire. Et bon, bah, je ne sais pas si ça apporte quoi que ce soit. Mais si, donc, non, attendez. Donc, en 2011, on n'a pas pu commémorer du fait de cette venue, même si on a entamé un procès contre Duvalier, et c'était Jean-Claude, ce n'était pas François. Et en 2014, rebelote, alors que ce jour-là, le 27 mars 2014 tombait un jeudi, comme le 27 mars 1969. Donc, on a des choses qui se délient, mais qui en même temps se délient, les langues se délient parfois. Mais, alors, vous avez parlé de déni. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un déni. C'est, enfin, je ne sais pas le terme que j'emploierais. Et je crois que le secret lie aussi les gens. Enfin, c'est pas non plus le secret, c'est le silence. C'est pas la même chose. Et voilà. Bon, je sais pas trop si c'est très éclairant ce que j'ai raconté, mais voilà. Mais en tout cas, merci, parce que moi, ça me permet de
réfléchir. Oui, non, mais c'était le livre, il n'était pas fait pour dédouaner les miliciens ou les bourreaux, pas du tout. C'était un porto, je pense. Je pense que c'est ça qui donne aussi la force de ce livre, d'intégrer aussi leur parole, c'est-à-dire leur point de vue, parce que ça permet justement de montrer la complexité de relations entre les victimes et les bourreaux, et c'est aussi de dépasser, parce qu'il y a eu des responsabilités évidemment, mais notre tâche à nous, ce n'était pas de faire le procès, on n'était pas là du tout, on était là pour montrer ce qui existe en termes de mémoire orale aussi, et donc de la, justement de l'intégrer à l'intérieur du récit photographique pour donner du sens au récit photographique. C'était vraiment de ce but-là. Et puis, si tu as l'occasion après de lire les textes, je suis ravi que, aussi, que tu me donnes ton point de vue, parce que ça, du coup, ça apporte des angles aussi de lecture différents par rapport à des mêmes situations, à des mêmes moments de ces événements. Donc, c'est très. Je trouve que ça enrichit beaucoup, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit, au début du travail, la première question, est-ce qu'on doit intégrer aussi, est-ce qu'on doit donner la parole, justement, à ces miliciens? Est-ce qu'on peut le faire? Et puis, on s'est confronté aussi avec la population locale, etc. On s'est rendu compte que c'était important parce que ça permettait, justement, pas de mettre en valeur leur parole, mais simplement de montrer comme, justement, il n'y a pas un travail de mémoire qui a été fait depuis, de la part de l'État. Au départ de la. Et du coup, cette mémoire est portée par des individus, par une collectivité, mais c'est une mémoire aussi mouvante, une mémoire très dynamique qui change et qui se construit en fonction de la personne qui l'exprime. Donc, c'était ça qui était intéressant de montrer à travers cette histoire-là. Voilà.
Merci beaucoup, merci Nicolas. Alors, j'aurais des choses à rajouter, mais je pense que là, vous me pardonnez, on est obligé de passer aux discutants. Ne vous inquiétez pas, il y aura un autre temps, parce que sinon, ils vont être venus pour.